Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on vit un traumatisme, combien de temps met-on pour se réparer? Peut-on aimer quand on est parasité par un souvenir, quand on est très fragilisé? Isa est restée paralysée pendant des années sans même s'en rendre compte, mais l'amour, vous le savez, et toujours au bout du chemin.
Moi, j'ai 17 ans et je termine mon cycle en Belgique. J'entame mes études supérieures et je décide de participer aux activités de bizutage pour me challenger. Et aussi, je suis fort jeune, j'ai envie de rencontrer du monde, de sortir. Et c'est dans ce cadre-là, finalement, que j'évolue. Moi, je grandis dans un milieu familial très serein, très axé sur le bien-être, l'écoute, on communique beaucoup, on peut à peu près tout se dire. Voilà, j'ai un papa et une maman qui s'aiment en tout cas beaucoup, une sœur avec qui tout se passe plutôt bien. Donc j'ai aussi des références masculines autour de moi qui sont assez positives. Et donc initialement, c'est vrai que voilà, je ne vois pas les hommes comme des prédateurs ou des personnes qui pourraient me nuire. Un soir, je vais à une soirée qu'on organise et là, je consomme un peu trop d'alcool en tout cas. Je ne suis pas dans un état déplorable, mais suffisamment en tout cas pour ne pas pouvoir répondre forcément de mon corps autant que je le voudrais. C'est durant cette soirée que je revois un ami du cercle en qui j'ai confiance et qui va finalement, au fur et à mesure de la soirée, m'imposer un rapport sexuel non consenti. Alors même que moi, j'indiquais fermement le non. Je lui demande juste d'être accompagnée par une amie pour me rendre aux toilettes. Mais cette amie est indisponible à ce moment-là et donc du coup, lui se propose. Donc moi, je pensais être en toute sécurité. C'est pas forcément mon genre d'avoir des rapports en soirée de cette manière-là. Juste avant, j'avais juste eu un partenaire qui est mon tout premier copain. Et donc du coup, finalement, c'est en me suivant en toilette qu'il m'a imposé ce rapport. Lui aussi était éméché, mais ça n'excuse en rien son acte. Donc, je rentre chez des amis, je dors chez mes deux amies principales. Et le lendemain matin, on fait un débrief et j'explique finalement ce qui s'est passé. Et là, elles vont me répondre que c'est tout à fait normal, que voilà, c'est ce qui se passe en soirée, il ne faut pas en faire toute une histoire. Et donc, elles normalisent en quelque sorte ce que je pense avoir vécu. Et donc, je mets ça un peu de côté et je me dis, bon, finalement, peut-être que c'est moi qui en fais tout un plat, alors que peut-être que pour les autres, ça arrive aussi et que c'est OK, quoi. Je me souviens juste, finalement, du lendemain, où j'ai un petit flashback et je suis assez surprise parce que c'est pas du tout une personne qui me plaisait, c'est pas du tout l'objectif quand je sors, donc c'est très inhabituel en tout cas de ma part. Donc je me sens assez sale, mais comme mes copines normalisent le fait, je me dis que tout simplement je dois me faire des idées. Quelques jours après, je m'adresse à ce garçon, à savoir que lui, il était en couple. Donc c'est encore moins dans mes valeurs, dans mon système de valeurs. Je vais lui dire que je trouve pas ça normal et qu'en tout cas quelque chose m'a mis mal à l'aise. J'arrive pas forcément à mettre des mots dessus. Je suis pas encore sensibilisée au consentement, en tout cas à cette époque. Lui aussi va normaliser, va dire que ce sont des choses qui arrivent en soirée et qu'il faut pas que j'en fasse toute une histoire. Et donc du coup, j'enfuis ça dans ma mémoire. Mais mon corps, lui, se souvient. Et donc durant l'année qui suit, je vais prendre 35 kilos. Sans trop m'en rendre compte, pour être honnête. Et c'est au bout de 4 ans, alors même que j'ai finalement des petits moments d'amnésie traumatique durant ces 4 années, qu'en discutant avec ma cousine, qui, elle, a pu observer des signes et a pu entendre dans mon discours des informations pouvant lui donner des réponses qui vont dans le sens, en tout cas, du viol, et qui va, en quelque sorte, un petit peu me tirer les vers du nez en toute bienveillance et qui va mettre le doigt sur la problématique. En parallèle, moi, j'ai aussi mes parents qui me proposent de faire une prise de sang au vu de ma prise de poids en si peu de temps. Et donc là, c'est aussi un déclic. Moi, je me dis, OK, là, je suis complètement à côté de mon corps. Je suis tout à fait déconnectée. Là où j'ai toujours été très bien dans ma peau, j'ai toujours été assez en phase. J'avais quelques kilos en trop, mais c'était pas du tout un problème pour moi. Là, maintenant, je me regarde, je me reconnais plus. J'ai subi aussi beaucoup de grossophobie, des amis qui me reconnaissent plus forcément parce que je suis très gonflée. Et donc voilà, là, je me dis, c'est vraiment le moment d'y réfléchir et de me dire qu'il faut que je creuse le sujet et que je trouve d'où ça vient, que ce soit au niveau psychologique ou au niveau du corps, au niveau médical. En discutant avec ma cousine, on refait le fil de cette soirée et j'ai, malgré les amnésies traumatiques, malgré la consommation d'alcool, j'ai quelques flashs qui me reviennent. Et dans ces flashs, je me souviens bien d'avoir dit non. Et donc, on part vraiment de ça et on échange beaucoup à ce sujet. Et là, je me suis rendu compte que peut-être que j'avais normalisé et que mon entourage avait normalisé quelque chose qui n'était pas normal. Et finalement, mon corps avait somatisé cette information qui n'avait pas été traitée. En parallèle, moi, durant ces 4 années, je n'ai aucun rapport avec des hommes. J'évolue notamment dans un monde professionnel qui est majoritairement fait de femmes. J'ai beaucoup d'amis femmes et dans mon entourage sentimental, j'ai aucun intérêt pour les hommes. Je ressens plutôt du dégoût. Là où justement, j'ai jamais eu vraiment de difficulté à plaire parce que initialement, j'étais quelqu'un de très solaire. Mais là, je suis complètement coupée. J'ai l'impression de vivre pour les autres, de vivre à côté de mon corps durant ces 4 années. Après la discussion avec ma cousine, je vais avoir un gros déclic. Je vais notamment décider de faire une diminution mammaire, car mon corps avait énormément changé. Je trouvais que c'était le symbole de la féminité. Ma poitrine avait beaucoup changé. Et donc, du coup, ça a été aussi, une étape du cheminement. Et ensuite, j'ai perdu 10 kilos, ce qui m'a redonné, en quelque sorte, un peu confiance en moi. Je me sens mieux, je perds du poids. J'ai beaucoup plus confiance en moi et je me dis que je pourrais peut-être réinvestir ma sphère sentimentale. Je m'inscris sur une application de rencontre et après quelques échanges, qui ne sont pas forcément des échanges très cordiaux, c'est plutôt de la taquinerie, en tout cas je le vois en ce sens, je me dis que je pourrais au moins essayer de rencontrer quelqu'un. J'ai en tout cas cette envie qui renaît, je rencontre cet homme, on se voit et l'histoire démarre comme ça petit à petit. Je passe de bons moments avec cette personne. Je me sens en tout cas à l'aise avec moi-même. Mais j'ai aussi cette croyance selon laquelle lorsqu'on est une personne grosse, finalement, il ne faut pas être trop exigeante quant à son partenaire de vie. Je me sens en confiance. Je rigole énormément. Et je pense que ça, c'est ce qui fait aussi qu'on se rapproche beaucoup. Et donc, je me lance dans cette relation. Et je me dis, voilà, je ne me projette pas, mais je me dis, voyons voir ce que ça peut donner. Très rapidement, il va rencontrer ma famille, il s'entend assez bien avec sa famille. Maintenant, lui, de son côté, ne me présente pas à sa famille tout de suite, voire finalement pas du tout. Je ne rencontre que quelques amis et voilà, au niveau culturel, c'est compliqué pour lui en tout cas de me présenter, étant donné qu'on n'a pas la même culture, qu'on n'a pas la même religion et que c'est pas une chose commune en tout cas de présenter si c'est pas dans le cadre du mariage. Et dans un premier temps, je peux l'entendre, mais pour moi, il est également important de découvrir l'entourage et des valeurs familiales très ancrées qui prennent énormément de place dans la construction de la personne que je suis aujourd'hui. Je ne retrouve pas à ce moment-là confiance aux hommes parce que malgré le fait que je sois heureuse de pouvoir à nouveau donner de l'amour, je ne sens pas que je reçois énormément d'amour ou en tout cas, ce ne sont pas mes langages de l'amour et c'est assez discret. Et il y a vraiment des problèmes au niveau relationnel et communicationnel qui prennent de plus en plus de place. Et petit à petit, on va également évoluer vers des violences qui sont verbales, vers des insultes assez couramment. On passe finalement une semaine à se disputer, se déchirer, Lui va disparaître pendant plusieurs jours sans me donner de nouvelles. Et la semaine d'après, là, c'est le montagne russe et c'est génial, c'est merveilleux, on partage beaucoup. Là, il fait les efforts et je vais avancer comme ça, de up and down dans la relation. C'est pas une relation qui est stable, c'est une relation qui est assez toxique. Et c'est vrai que moi, même si j'ai gagné en confiance en moi, je n'ai pas encore réinvesti mon caractère, mes compétences à dire non, à mettre des limites. Je tente sans arrêt de réparer, mais ça me prend énormément d'énergie, ça me coupe énormément de mes projets. Je n'ai plus aucune énergie pour mes projets. Je suis fort absente, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de mes activités artistiques. Je désinvestis à nouveau petit à petit ma vie. Jusqu'au jour où, après plusieurs discussions avec mon entourage, je me rends compte qu'il est temps finalement moi de me fixer des objectifs et peut-être de tout simplement quitter le nid et de me prendre un appartement de manière à prendre mon indépendance. Et donc, dès janvier 2020, on emménage à quelques pas de la maison familiale de mes parents. Et là, le premier mois, on passe un mois assez idyllique que je pourrais qualifier de lune de miel. J'apprécie le quotidien avec lui, on a des petits rituels qui sont plaisants, je retrouve finalement un peu de sérénité, mais finalement toute cette dynamique ne va pas durer. Au bout d'un mois et autour d'une discussion qui est assez lambda, on a un désaccord pour quelque chose plutôt de pratique. Et au-delà des insultes, il en vient aux mains, il est très agressif vis-à-vis de moi et je me retrouve finalement par terre à subir ses coups de pied. Je suis tellement choquée à ce moment-là que ma psyché répond en tournant finalement sur moi-même pendant une grosse heure et en répétant « Mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi t'as fait ça ?» Pour moi, voilà, c'était le geste de trop. Je suis finalement assez sensibilisée aux violences conjugales. Je suis la première à conseiller sur le sujet. Et là, moi, je me retrouve dans cette situation, je me sens diminuée et je me rends compte que finalement, les violences conjugales, elles étaient déjà présentes puisqu'il y avait des violences qui étaient verbales. À ce moment-là, je suis très démunie, je ne sais pas du tout quoi faire. Et je me dis tout simplement qu'on va laisser faire le temps, que moi je vais prendre du temps pour réfléchir, discuter. J'ai notamment une voisine qui a entendu la dispute et qui s'est inquiétée pour moi, qui m'invite chez elle pour en discuter les jours suivants. Et c'est vrai qu'elle me sensibilise beaucoup, mais à ce moment-là, en tout cas, je ne veux rien entendre. Je me dis juste que j'ai envie que le projet que j'ai en tête fonctionne. Même si finalement dans les faits il fonctionne pas forcément. Et donc on va avoir une discussion sur le sujet quelques jours après. Mais moi entre temps j'en ai aussi parlé à un membre de mon entourage qui est ma cousine avec qui on a un lien très fort et qui a eu une très bonne réaction. Au lieu de me dire quoi faire, elle m'a simplement redirigée vers des organismes de violence, enfin qui traitent en tout cas les sujets de la violence conjugale. Et de fil en aiguille et d'information en information. Voilà, moi je nourris quand même ma réflexion et je me dis que si ça recommence, ce sera juste pas possible pour moi et je me fixe finalement cet objectif. Sauf que très rapidement arrive le confinement. Donc je suis confinée dans un appartement avec lui et la violence grandit, lui va perdre son emploi, il va être beaucoup plus fragile et la violence va poursuivre, grandir et voilà, moi maintenant j'ai plus vraiment d'échappatoire, je me suis contrainte de rester avec lui. Et c'est quelque chose de très douloureux. Pour moi, la définition de l'enfer, bah, finalement, c'était un peu ça. Je me sens en insécurité. Je ne parviens pas à dormir parce que lui joue à des jeux vidéo toute la nuit. Il crie énormément, il tient des propos misogynes. Et moi, je suis à côté et c'est très dur pour moi, en tout cas. Car je n'ose pas dormir, j'ai peur pour moi, j'ai peur pour ma vie. Lui, j'ai aussi très peur finalement de prendre une décision et de ne pas pouvoir me retourner au vu du Covid. Mais un soir de trop, la violence de trop, je décide de mettre fin à notre histoire sur un coup de tête. Lui va réagir de manière très calme. Et donc je me dis que ben voilà, les choses vont tout doucement se mettre dans l'ordre. Il va pouvoir quitter l'appartement et moi pouvoir reprendre ma vie, mais sans lui. Finalement, il décide de ne pas partir. Je suis vraiment en grosse souffrance. J'en parle à personne, non. Je suis assez gênée de vivre ça. La culpabilité, c'est quelque chose qui me ronge déjà depuis ce premier événement où j'ai, en tout cas selon moi, fait l'erreur de boire un peu trop. et de faire confiance. Ici, pareil, en tout cas, j'ai fait l'erreur de me lancer et donc je ressens beaucoup la culpabilité. C'est très difficile d'être invisibilisé chez soi, de ne pas trouver sa place finalement chez soi. Donc le confinement se termine, je vois que lui n'avance pas dans sa recherche d'appartement et donc moi je prends la décision finalement de retourner chez mes parents et je me rends compte que je retrouve une sérénité mais aussi un sentiment de sécurité que j'avais complètement perdu et oublié. Je tente de me remettre sur pied et donc je décide de prendre un rendez-vous auprès d'un psychologue. Donc c'est un psychologue que je connais bien, qui m'a déjà suivi dans le passé et qui connaît bien finalement ma dynamique de couple passée. Et au fur et à mesure des séances, il sait que je suis quelqu'un qui est très projeté sur l'avenir et qui sait aussi faire preuve de résilience. Et il va me conseiller de me fixer 3 grands objectifs pour les prochaines années et de finalement de me fixer sur ce que je veux moi finalement, parce que la société ou mon entourage attendrait de moi. Et donc je me donne 3 grands objectifs. Le tout premier qui est important pour moi, c'est de retrouver mon côté très solaire, très ouvert sur les autres, sur le monde. Et ça, c'est la personne, en quelque sorte, que je veux devenir à cet instant présent. Ensuite, je me donne pour objectif de me lancer, en tout cas, dans les démarches pour construire ma tiny house. Donc, c'est un rêve depuis plus de 10 ans. Une tiny house, c'est un habitat léger qui peut être déplacé, qui fait maximum 20 mètres carrés, dans lequel, finalement, on peut vivre en pleine nature, auprès des animaux. Voilà, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de la nature pour se ressourcer. C'est un projet que j'ai en tête depuis un petit moment. J'étais notamment allée à plusieurs salons sur le sujet avec mon ex-compagnon, mais qui, lui, trouvait ça très ridicule, qui en rigolait énormément. Alors que moi, c'est vraiment quelque chose qui, au fond de mon ventre, me fait énormément vibrer. Mon troisième objectif, c'est de me lancer un objectif professionnel et d'aller, en quelque sorte, plus loin au niveau de mes ambitions. Et donc, je me lance dans un master en sciences de l'éducation, en horaire décalé, à côté de mon travail. Et donc, l'objectif, c'est de mener à bien ce master au bout de 3 ans et de peut-être changer d'environnement professionnel. Ces objectifs m'aident finalement à me projeter dans le futur et à ne pas rester dans le passé. Je discute avec ma cousine énormément et c'est vrai qu'un soir, je décide de lister toutes les qualités que j'aimerais retrouver chez un de mes partenaires. Donc l'idée ici n'est pas de choisir un partenaire par dépit en fonction de qui je suis et de ce à quoi je ressemble, mais au contraire de me projeter dans une relation avec une personne qui me ressemble, avec qui j'ai des points communs et que je recherche réellement, qui pourrait réellement matcher avec moi. Dans les critères, j'ai choisi quelqu'un d'ambitieux, d'ouvert d'esprit, qui a beaucoup d'intelligence émotionnelle, qui est ouvert sur les autres, qui est capable de communiquer, de prendre ses responsabilités. Et puis des critères qui sont un peu plus bateaux, mais qui sont... Voilà, la fidélité, les moments de partage, l'idée aussi d'avoir des projets, d'avoir la passion du voyage. Donc voilà, un petit peu la liste des critères pour mon homme idéal. C'est vrai que le fait de me fixer ces objectifs et de compléter cette liste, bah finalement, ça m'oriente vers le futur et c'est quelque chose qui m'aide clairement à me reconstruire. Même si je suis au fond de moi assez détruite et très mal, je me rends compte que j'ai des ressources et que maintenant il est temps de s'en servir et d'être vraiment moi-même et plutôt d'arrêter de vivre à travers finalement des relations qui sont dysfonctionnelles. Donc ces objectifs finalement deviennent ma ligne de conduite et à côté j'essaie aussi de me nourrir énormément de mes activités, me reconnecter à des activités artistiques, au théâtre, je continue notamment l'improvisation, qui était une des seules activités que j'avais encore l'énergie de garder. En septembre 2020, alors moi j'ai toujours adoré le théâtre, j'ai toujours fait beaucoup de théâtre, j'ai écrit des spectacles pour des troupes d'amateurs. Et c'est vrai qu'avec des amis, on décide de se lancer dans un groupe d'improvisation, de se challenger. Donc ce que j'aime beaucoup dans l'idée de l'improvisation, c'est l'idée de travailler à l'acceptation. Et donc, lorsqu'on monte sur scène avec un partenaire, s'il nous propose quelque chose, c'est l'idée de rester ouvert à son idée et de lui faire confiance et de se lancer. Et donc, ça travaille énormément la confiance en son partenaire de jeu. Mais ça permet également d'exprimer ses émotions, d'exprimer des personnages peut-être enfouis en nous, ou au contraire, de carrément fuir ma réalité et de se dire que ce soir, je mets ce masque-là et que ça me va plutôt bien, en fait, en cette période de souffrance, en tout cas à ce moment-là. Donc je vais à ce cours d'improvisation tous les mardis et puis un jour, il y a une nouvelle personne qui arrive. Il s'appelle Anthony et c'est un personnage qui est assez charismatique. Pour le décrire physiquement, il est blond aux yeux bleus. Il a un look très soigné, mais avec des détails assez loufoques. Notamment, il porte toujours des chaussettes différentes et qui sont assez kitsch. J'aime beaucoup, en tout cas, ce côté loufoque. Ça me questionne. Je vois de la folie chez lui. Je trouve finalement très charmant. Je vois qu'il est très créatif. Globalement, il plaît à tout le monde. Il fait l'unanimité. Il va facilement vers les autres. Donc, on se retrouve tous les mardis dans ce cours d'improvisation. Petit à petit, à force de se voir et de discuter en fin de séance, ben on va prendre le pli de discuter jusqu'aux petites heures du matin devant, alors même que tout est fermé, pour refaire le monde, parler philosophie, parler développement personnel. On est tous les deux dans une phase de vie assez similaire, et donc c'est vrai qu'on a pas mal de points communs. Durant ces longues discussions, finalement, durant ce rendez-vous du mardi après les cours d'impro, on va parler beaucoup de nos valeurs en amour, mais sans jamais se projeter vraiment individuellement ou à deux. On a des valeurs assez similaires, et c'est vrai que moi, je me le dis, mais clairement, c'est pas du tout le moment pour moi. Et donc, du coup, je me laisse juste avancer, finalement, dans cette belle amitié. Je pense qu'il est possible d'avoir une amitié avec un garçon sans forcément l'envisager comme un partenaire. Et donc, dans un premier temps, c'est dans ce cadre-là que notre relation évolue. Finalement, au bout de quelques rendez-vous de discussion, j'organise avec ma troupe d'improvisation une soirée chez moi, ou plutôt chez mes parents. Et là, on va beaucoup danser. À savoir que dans ma fameuse liste de l'homme idéal, il y a finalement le fait que cet homme doit pouvoir danser. Et c'est vrai que ce soir-là, je me dis, il danse plutôt bien. Et j'adore partager en tout cas ce moment avec lui. Il danse le rock, il improvise du hip-hop. Voilà, il n'a pas vraiment peur du regard des gens. Et c'est quelque chose que j'aime en tout cas beaucoup. Et donc, on passe cette soirée ensemble. Et finalement, tout le monde part petit à petit. Et il reste lui qui va finalement rester dormir avec moi. On continue nos discussions très tardivement. Et c'est vrai que là, il y a un rapprochement physique qui était assez imprévisible. Mais je pense que l'idée de danser ensemble et de se toucher a favorisé également ce rapprochement. Et donc, moi, je me laisse finalement glisser sans trop me questionner sur la suite des événements. Donc, on échange un premier baiser. Et le côté très surprenant me fait finalement me sentir très bien. Je sens que je me sens assez en sécurité pour pouvoir lâcher prise et me laisser porter dans ce moment. On va être très tactiles l'un envers l'autre. Tout doucement, les choses vont se faire de manière assez évidente, comme ça a toujours été le cas, finalement. Et donc, après cette soirée, on définit rien. C'était un très chouette moment et on va continuer à être amis. On avance, on évolue, mais chaque mercredi, on se donne un petit rendez-vous chez moi, de manière à pouvoir cuisiner ensemble, regarder un film, voilà, faire des choses finalement que les amis pourraient faire ensemble ou des choses finalement qu'un couple pourrait faire ensemble, mais on se questionne pas trop en ce sens. Sauf qu'un jour, alors que je fais toujours fort attention à ce que les horaires coïncident avec les horaires de mes parents parce que j'ai dû revenir chez moi à 27 ans, mais un jour, mes parents rentrent à un moment où Anthony était présent avec moi. Et donc, voilà, je n'ai pas d'autre choix que de le présenter. Et finalement, ça vient un peu propulser notre relation et en tout cas l'officialiser aux yeux de mon entourage. Là où pour nous, c'était pas encore tout à fait clair. Et donc, il s'entend très bien avec mes parents. Il est souvent invité durant le second confinement. C'est une toute autre ambiance pour moi. On va faire des soirées disco avec mes parents à quatre. Donc, c'est finalement de très bons moments et on se laisse tout à fait porter. On fait du roller durant le confinement, de longues balades dans les bois. On partage des bains où on refait complètement le monde, des nuits blanches à parler de philosophie. Et il me donne aussi un petit coup de main dans mes cours de statistiques pour mon objectif lié au master aux sciences de l'éducation. Et donc voilà, c'est assez porteur et je me sens plutôt bien. Et finalement, au fur et à mesure des semaines et des mois, ça nous semble évident que voilà, on est ensemble et ça s'est fait assez naturellement. Mais on va quand même acter ça autour d'une petite discussion où on se dit, moi, de toute manière, c'est clair que c'était exclusif et inversement. Mais voilà, j'ai envie d'être avec toi. Là, c'est choisi. C'est pas juste quelque chose de naturel. On a envie d'être là ensemble, l'un pour l'autre. Et lui, c'est quelqu'un avec qui on peut parler de tout. Et donc, très rapidement, je lui parle de mes difficultés dans le passé, en tout cas avec les hommes, des déceptions, des violences vécues. On va beaucoup en discuter et je vais vraiment me rendre compte au fur et à mesure que les valeurs qu'on échange, lui et moi, sont très saines et que c'était pas forcément le cas dans le passé. Je me répare, mais il me donne aussi cette possibilité, cette tranquillité et cet espace de parole pour m'aider à me réparer, me donner des clés, me donner ses expériences personnelles sur le sujet. C'est quelqu'un de fin psychologue, en tout cas, ou qui a une bonne qualité d'écoute. Et au fur et à mesure, j'évolue dans la relation et je me rends compte petit à petit que je me répare et que mon rapport aux hommes change. Mon rapport à moi-même aussi change. J'ai beaucoup plus confiance en moi. Je n'ai pas perdu tout le poids que j'avais pris initialement, mais je me sens très bien. Je me sens entendue dans mes besoins. Pour lui, un non est clairement un non. Même quand c'est pas indiqué, voilà, il va toujours s'assurer de mon consentement. Et il a une sensibilité que je trouve finalement très sexy, très attirante. Il est très patient. C'est quelque chose qui fait en sorte que je me laisse aller sans trop me poser de questions. Mais pour moi, c'est une évidence que on tombe amoureux, on est déjà tombé amoureux. Et on parle, on se projette dans l'avenir, on parle de projets, des voyages, on partage cette envie d'aventure. Je lui parle de mon projet Tiny House et lui, il a également un projet de van en cours. Et finalement, on se rend compte que ça matche plutôt bien. Lui se projette complètement dans mon projet. Et inversement, on a un match qui est pour le coup assez parfait. Et il va beaucoup m'aider en tout cas à me lancer dans les démarches. Déjà en m'apportant cette paix, cette sérénité qui est nécessaire pour me lancer dans mes ambitions et à mener à bien tous mes projets. Et aussi, il m'aide de manière pratique. On va notamment faire les démarches ensemble, choisir les matériaux ensemble. Et donc, la machine est lancée, la Tiny House est en cours. Et finalement, d'un projet qui était le mien, ça devient finalement un projet commun qui a gagné en richesse parce que mon partenaire de vie le soutient et est tout à fait actif dans ce projet en tout cas. Aujourd'hui, je me dis qu'Anthony répond entièrement à tous les critères de ma liste de l'homme idéal. Il est finalement cette personne ouverte d'esprit, ouverte sur les autres, très attentif. Il coche absolument toutes les cases et surtout, c'est un excellent danseur. Alors, pour ce qui est de mon projet de Tiny House, aujourd'hui, on vit à deux dans cette magnifique Tiny House. On est dans un terrain qui est assez merveilleux. Entouré de chèvres, de poules en liberté, avec une vue assez magnifique. Et même si c'est pas toujours facile de partager 20 mètres carrés avec son partenaire de vie, je trouve qu'on s'en sort plutôt pas mal et on doit en tout cas innover en matière de communication. C'est un projet que j'adore partager avec lui et je suis très reconnaissante de vivre ça avec lui. J'ai décidé de témoigner dans ce podcast pour plusieurs raisons. La première, c'est de donner espoir aux personnes et aux femmes qui sont dans la situation dans laquelle je me suis trouvée. De se dire que finalement, moi j'étais dans une vie qui était assez désastreuse, dans laquelle je me sentais très mal. Et maintenant, aujourd'hui, je suis tout à fait dans une autre vie. Lorsqu'on discute avec mes amis, ils voient finalement une autre personne. Donc il y a toujours finalement un futur, des objectifs qui vont nous nourrir. C'est l'occasion aussi pour moi de mettre à l'honneur Anthony, qui est finalement mon partenaire de vie, qui est si doux, prévenant, attentif, ambitieux, et avec qui finalement j'ai la chance de partager ma vie. Je suis très reconnaissante aussi du fait qu'il m'ait aidée à me reconstruire, que ses paroles ont eu vraiment une visée thérapeutique sur moi. Il m'a finalement donné la tranquillité et l'écoute attentive pour pouvoir me relever de ces événements. Anthony, si tu écoutes ce podcast, je veux vraiment te remercier finalement d'avoir été ce soleil, en tout cas dans ma vie, d'être ce partenaire de vie qui est idéal, qui est présent, qui est respectueux des femmes, de son entourage, qui est respectueux et ouvert sur les autres. Je te remercie, je t'aime énormément et je vois en tout cas très loin avec toi. Aujourd'hui, ces trois objectifs, j'ai réussi à les mener à bien. Je suis propriétaire de ma Tiny House. Je suis quelqu'un, en tout cas, qu'on décrit comme étant quelqu'un de solaire. Et je viens de clôturer mon master en sciences de l'éducation avec brio. Donc je suis très heureuse, finalement, d'avoir pu me donner et me créer de nouvelles opportunités. Et je suis très fière de moi. J'ai beaucoup d'estime pour moi-même. Et ça a beaucoup changé. Et j'en suis très heureuse.
Bon, si vous avez aimé Ex, c'est que vous aimez les histoires intenses. Alors je vous invite à découvrir notre tout nouveau podcast qui s'appelle Les Rescapés. En attendant, merci à Clémentine Delagrange d'avoir réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard de l'avoir monté et mis en musique.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.